J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole pour faire face à la carence des professeurs dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Le gouvernement congolais a lancé la semaine dernière la bourse d'émergence de la RDC. Pour le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Steve Mikai, cette initiative permettra aux jeunes congolais de poursuivre des études techniques dans des grandes universités à l'étranger, notamment l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Canada. Ce programme de bourse vient s'ajouter à d'autres programmes annoncés par le gouvernement depuis près de 2 ans. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en direct en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Merci à ceux qui ont donné de l'intérêt pour commenter ces sujets sur notre page Facebook. Notez que toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. William Lungamba sur la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Ces magazines vous êtes coordonnés et présentés par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons Roland qui est à Lubumbashi et Marie-Paul à Kisangani. Mais entre-temps, nous continuons, donc je crois que dans quelques instants, nous allons recevoir dans ces studios les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai. Alors Roland, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour à tous les meilleurs auditeurs de la radio Capi et aussi à notre invité s'il nous capte jusque-là.
Alors quel est votre commentaire après avoir appris qu'effectivement le gouvernement travaille pour l'octroi des bourses d'émergence de la RDC à donner donc à ceux qui veulent continuer poursuivre des études techniques dans des grandes universités à l'étranger, notamment à l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Canada?
Oui, bien. Alors, par rapport à la thématique, je crois que j'aurais voulu m'adresser directement à son excellence, monsieur le ministre Steve Mbikai, qui, à mon humble avis, quand même, il y a lieu de lui solliciter par rapport à d'autres choses et d'initiatives qu'il est en train de déployer pour émerger, n'est-ce pas, la science ou soit les études universitaires dans notre pays. Mais bon, malheureusement, par rapport à ce sujet du jour, vous devez savoir que pour avoir les lauréats, il y a quand même certains principes qu'il faudrait mettre d'abord en place pour y arriver. C'est un souci, c'est un besoin. Mais quand on a un besoin, il y a aussi un plan qu'on doit faire pour avoir ces étudiants, ces doués-là, qu'on doit envoyer d'abord à l'étranger. L'élève ne peut pas tout simplement fournir les efforts seuls. Il y a aussi les efforts que l'État et l'agent, donc l'élève lui-même en tant qu'agent d'éducation, doit aussi fournir. Bien sûr, par rapport à l'État, ce sont des questions que je devrais poser à son excellence, monsieur le ministre. Vous savez, nous étions en Colosie dernièrement avec mon ONG, nous avions répertorié qu'il y avait une fille qui était la lauréate de la ville de la Lab, à Colosie, et donc de la province de la Lab à Colosie. Mais cette fille n'a pas pu bénéficier de ces bourses qui étaient à leur égard. Par conséquent, le gouvernement provincial, autrichois d'une autorité que je m'interdis de citer les noms ici, a pu octroyer à sa nièce ces bourses-là au détriment de cette pauvre fille qui était en Orient, qui faisait la fierté de cette province. Vous voyez, c'est ça ce qui détruit, c'est ce qui est mal, c'est le clientélisme.
Donc vous dites qu'il y avait une fille qui était lauréate à Colosie et qui devait en principe faire les déplacements pour aller poursuivre les études à l'étranger. Et il y a eu des manœuvres dilatoires ou encore des manigances au niveau des autorités provinciales qui n'ont pas permis à la fille de faire les déplacements. Et vous en appelez maintenant à l'intervention du ministre.
Oui, mais évidemment, malheureusement, sur moi, je n'ai pas mon agenda. Vous m'avez pris au moins à pied levé. Je croyais que ça devait être à 12h et j'avais oublié que c'est le mercredi. Sinon, je devrais vous donner et les détails de la fille et tout ça parce que nous avions répertorié ça. C'est ce qui détruit, c'est le tribalisme.
Bah alors, ce que je veux vous conseiller, Roland, parce que nous aurons dans ces studios les ministres et lui-même, les temps d'arrêter cette conversation avec vous et que vous vous mettez à chercher les coordonnées de la fille. Mais avant la fin de l'émission, je crois que vous pouvez revenir. On va exceptionnellement accepter que vous intervenez par deux fois pour nous donner tous les détails. Sinon, vous connaissez bien notre adresse email. Vous nous envoyez les contacts et on transmettra ça à l'invité. Merci beaucoup, Roland. Mais je retiens que vous avez félicité la démarche du gouvernement par les billets du ministère de l'ESU. Vous soutenez qu'effectivement, ça c'est la réponse à un besoin qui s'est fait sentir, comme vous l'avez constaté, comme tous les autres, qu'il y a la carence des professeurs. Il fallait une telle réponse. Mais vous demandez à c'est qu'il y ait un plan, effectivement, d'octroi de ces bourses. Merci beaucoup, Roland. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quel est votre commentaire?
Oui, d'entrée, monsieur le journaliste, je dirais que les drames pour les autorités congolaises, c'est le fait de s'attaquer aux conséquences qu'on cause. Oui, il y a bien évidemment la carence des professeurs. Mmh. Mais d'où est venue cette carence des professeurs? La carence des professeurs est venue, c'est parce qu'il y a, monsieur le journaliste, il y a une multiplication des universités chaque jour dans le pays. Et cette multiplication des universités, les conditions pour accéder, pour devenir professeur, eux aussi deviennent à tout moment compliqué. Ça pose problème. Voilà ce qui fait qu'on ait moins de ceux-là qui accèdent au grade de professeur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conditions. Et en cela, il y a une absence totale de la politique nationale de nos universités. Quel est vraiment le ministre pourrait nous dire, quand il sera au plateau, la politique générale de nos universités? Nous avons des universités dans tous les recoins. Mais quelle est la politique? Quel est l'avenir? Qu'est-ce que le ministre passe de ces universités? Parce que chaque année,
Marie-Paul, oui. Je crois que vous avez eu le temps de lire quand même la loi cadre de l'enseignement révisitée en 2011-2012, si ma mémoire est très 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 bonne. Et là, je crois que la réponse à votre question s'y trouve.
Non, les problèmes...
Si pas en partie, en tout cas, totalement.
Monsieur le journaliste, vous savez, et chaque année, les universités congolaises font sortir plus de 9000 diplômés. Et mais quel est ces diplômés-là? Font quoi dans le pays? Est-ce que l'État est en train de construire ses diplômes? Non. Mais aussi, si nous voulons valoriser les universités dont on cherche à envoyer les boursiers, mais ce sont des universités à même titre que les universités congolaises. Pourquoi pas que nos autorités puissent mettre en place une politique pour valoriser nos universités, pour créer nos filières.
Merci beaucoup.
Qui seront
merci beaucoup, Marie-Paul. Vos propos relancent quand même le débat sur la place qu'occupent aujourd'hui les universités congolaises sur la liste des meilleures universités de l'Afrique notamment. Merci beaucoup. Alors on rappelle à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant les 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69.
Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Okapi.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons le plaisir de recevoir et d'accueillir dans ces studios Monsieur Steve Mbikai qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous rappelons que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, le gouvernement a levé l'option de pouvoir accorder la bourse qu'il appelle d'émergence de la RDC. Cette bourse, disais-je au sommet, vient s'ajouter à d'autres programmes annoncés par le gouvernement depuis près de 2 ans, pour ne pas parler de la bourse d'excellence. Alors aujourd'hui, en quoi consistent réellement ces bourses et qui sont concernés?
Je commence par vous remercier pour cette invitation. Je vais d'abord expliquer ce que c'est la bourse d'excellence de solidarité nationale. quand je suis arrivé à la tête du ministère de l'ESU, je fais donc des visites dans toutes les universités, presque dans toutes les provinces, pour faire l'état des lieux. Je me suis rendu compte qu'il y a de filières où il y a pléthore d'étudiants, comme communication, droit, économie, médecine. Par contre, il y a des filières où les places manquent d'étudiants. Donc c'est comme, par exemple, en mathématiques, physique, chimie.
Agronomie.
Oui, voilà. Alors, je pensais qu'il fallait mettre sur pied une politique pour que ces filières-là vivent. Et entre-temps, il y a les enfants des familles pauvres qui savent pas aller à l'université. Pendant qu'il y a des places qui manquent d'étudiants dans certaines filières, il y a des enfants congolais qui savent pas aller à l'université. Alors, je pensais qu'il fallait créer cette bourse d'excellence et de solidarité nationale pour permettre à ces enfants de familles défavorisées de pouvoir faire l'université, moyennant un concours. C'est comme ça la première édition a commencé l'année passée. Nous avons placé environ 300 étudiants à l'UNIKI, NUPEN, ISTA, partout ailleurs, et qui doivent étudier gratuitement de premier graduat en deuxième licence, sans rien payer. Et d'ailleurs, ce samedi, il y aura un concours pour la deuxième édition. Nous avons déjà environ 3000 candidats enregistrés. Et après Kinshasa, je vais me rendre à Lubumbashi pour faire le même test. Et on manque pas seulement d'étudiants dans des filières scientifiques ici et technologiques, mais on manque aussi des professeurs. Vous savez, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on disait que la polytechnique pourrait être fermée faute des professeurs. Parce que ceux qui sont là ont pris de l'âge, ils ont vieilli. La moyenne d'âge est de 60 ans, bientôt ils vont partir à la retraite. Mais personne n'a pensé à trouver la solution au problème. Et c'est comme ça que au niveau du ministère, j'ai dû penser à pouvoir présenter au gouvernement un projet pour la relève académique. C'est-à-dire, comme nous n'avons pas de troisième cycle, par exemple en polytechnique ici, donc c'est difficile, parce qu'il y a un auditeur qui a dit pourquoi envoyer les gens à l'étranger. Parce qu'ici, on ne sait pas avoir la maîtrise, par exemple en polytechnique. Il n'y a pas de troisième cycle. C'est comme ça que je me suis dit, nous devons envoyer dans un premier temps, pendant 5 ans, chaque année, environ 500 candidats dans de bonnes universités d'ailleurs, qui feront des études de mécanique, d'électricité, électronique, informatique, chimie, physique, métallurgie, ainsi de suite, et qui pourront revenir ici pour prendre la relève et commencer à enseigner. Parce que nous devons importer le savoir et le savoir-faire. Nous sommes une société de consommation. Je donne un exemple. Nous avons des grumes en RDC. Mais ces grumes sont exportés à l'état brut parce que nous manquons le savoir et le savoir-faire. C'est comme par exemple, vous avez un champ de maïs. Mais pour avoir la farine, il faut que ces maïs aillent peut-être, c'est pas moi, à Lubumbashi ou bien en Zambie pour qu'on puisse les moudre et vous renvoyer la farine à trop cher. C'est pas normal. Nous devons importer le savoir et le savoir-faire scientifique et technologique.
Donc, si je comprends bien, 5 ans, sur 5 ans, 500 étudiants chaque année.
500 étudiants chaque année.
Et quelles sont les conditions?
Oui.
Les conditions.
D'abord,
est-ce que ça sera sélectif ou, comme d'habitude, avec beaucoup de subjectivité?
Oui, j'ai entendu les gens se plaindre. C'est vrai, dans notre pays, il y a cette façon de faire les choses. Que quand il y a, par exemple, des bourses, que des ministres, des députés, les hauts placés recommandent les leurs, ce qui n'est pas intéressant. Parce que c'est pas tout le monde qu'on peut envoyer à l'étranger. Il faut envoyer des gens capables. Là, j'étais en causerie avec l'ambassadeur de la Russie qui m'a dit que la plupart des gens qu'on a envoyés pour des bourses qu'on avait données par la Russie échouaient toujours.
Par le passé.
Par le passé et tentaient de traverser pour aller ailleurs. Et je souligne que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on n'a jamais donné de bourses par l'État congolais. Je crois que notre gouvernement, pour avoir accepté ce projet que j'ai présenté à l'unanimité, est à féliciter. Voyez-vous, pour ce que nous faisons, d'abord, pour la bourse de l'excellence de l'acte, on peut vérifier. Tous ceux qui ont été retenus, je ne les connais pas. On a pris le questionnaire, l'examen d'État, on a posé. Ceux qui étaient en études ont été retenus et placés. Et même maintenant, En ce qui concerne la bourse pour l'émergence du Congo, on ne va pas faire de clientélisme parce que le critère d'admission ailleurs sont très rigoureuses. Comme je l'ai dit, j'ai visité des universités en Afrique du Sud, j'étais en Corée du Sud, j'étais au Canada. Mais les critères qu'on a sont sévères. Ah, on ne peut pas envoyer quelqu'un parce qu'il est fils des ministres.
Est-ce que ça rentre dans les cadres de la coopération ou bien c'est le gouvernement qui va financer?
Non, c'est pas la coopération. Vous savez que moi je suis généralement contre cette histoire d'avoir la main tendue.
Est-ce que vous ne craignez pas que ça s'arrête quelque part parce que le gouvernement, par rapport à son budget, pourrait vraiment tenir sur 5 ans?
Recevoir des bourses de certains pays, Maroc, Algérie, Tunisie, et que nous-mêmes on ne puisse pas financer pour nos propres fils, c'est pas normal. Dans ce projet, c'est le gouvernement qui finance à 100% et l'inscription, et les frais académiques et la bourse mensuelle pour la survie des étudiants. En ce qui concerne la bourse pour les ministères du Congo, pour ceux qui iront faire le master et puis le doctorat, on va prendre en priorité ceux qui ont distingué plusieurs fois. Exemple, on dépose des dossiers. S'il y a un étudiant qui a distingué 5 fois, d'office, il est retenu. 4 fois.
3 fois.
3 fois. 2 fois. Et quand il y a égalité en nombre de distinctions, nous allons voir laquelle est prime. Un étudiant qui a distingué en premier graduat, deuxième graduat, première licence, sera pris par rapport à celui qui a distingué seulement en troisième graduat et en deuxième licence. Parce que distinguer avec le cours seulement, c'est plus compliqué. Mm-hmm. Vous savez que en troisième graduat, en deuxième licence...
Donc ça, c'est les critères de sélection.
Oui, parce que c'est objectif. Oui. Il y a souvent beaucoup de distinguer par rapport au point qu'on reçoit pour... il y a le stage, il y a le travail, c'est pas mal. Mais comme il faut se sélectionner, on fera ça. Et à partir, je crois, de cette semaine, un bureau sera ouvert au niveau de l'ISTA, parce que l'ISTA est un peu au centre. J'ai mis en place une commission qui va commencer à recevoir
des dossiers,
parce que la première vague doit partir à partir de l'année académique prochaine. Pour ceux qu'on devait envoyer en Afrique du Sud, par exemple, je souhaiterais qu'ils puissent d'abord suivre une formation ici de langue anglaise pendant quelques mois, avant de partir. Parce que même l'université de Séoul que j'ai visitée, l'université nationale, qui est la meilleure parmi les universités mondiales.
Les conditions d'inscription au concours ou à la sélection, c'est gratuit. On n'exige pas aux candidats ou aux requérants de donner quelque chose.
Non, il n'y a pas de raison qu'on puisse demander quelque chose. C'est comme avec la bourse d'excellence. C'est gratuit. Le ministère va prendre en charge toutes les dépenses liées à l'administration par rapport à la gestion des candidatures, traitement de dossiers. Donc, ça sera au niveau du ministère.
Gare aux arnaqueurs, des gens qui vont, en tout cas les intermédiaires, qui vont prendre de l'argent chez les requérants et amener ça, bon disons, selon eux, au ministère.
Mais ça sert rien de prendre l'argent. Pourquoi prendre l'argent? Parce que c'est nous qui avons besoin, nous comme gouvernement, qui avons besoin de meilleurs candidats.
De pallier cette carence.
Pour pallier cette carence des professeurs. Mais surtout aussi de la main d'œuvre qualifiée, comme j'ai dit là. Au lieu d'exporter nos grumes à l'état brut, on doit envoyer les Congolais dans des pays où il y a cette expertise de fabrication de meubles de qualité, aller apprendre à le faire, revenir ici et monter des PME. Vous savez, quand j'étais à Séoul, je suis allé voir l'université polytechnique de Séoul. Elle est installée au milieu de 22 000 PME. Et son rôle, c'est d'aider ces PME à prospérer, à trouver des solutions à leurs problèmes. Parce que l'université est là pour trouver des solutions aux problèmes de la société. Vous comprenez? Nous devons importer le savoir-faire et avoir une politique d'encourager la création des petites et moyennes entreprises.
Voilà, monsieur le ministre, si vous le permettez, il y a un groupe d'auditeurs qui vient à peine de nous rejoindre là pour le débat. On va revenir à vous d'un moment à l'autre, le temps d'accorder la parole à Trésor, à Sylvain et puis à Stéphane Idiopa. Trésor, vous êtes en Boujimaï. Bonjour Stéphane. Pardon, Trésor. Trésor, vous êtes avec nous en Boujimaï. Alors Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Quel est votre commentaire, Sylvain?
D'abord, je voudrais saluer le ministre. Hein. Je le connais comme président des partis travaillistes. Je suppose qu'il doit être du côté des plus faibles, en tant que syndicaliste. C'est lui qui est censé défendre les plus faibles. Alors, je commence directement par ce qu'il appelle les critères de choix. Je me rends compte qu'il y a cette confusion dans ce qu'il dit. Puisque si effectivement il faut voir le niveau de distinction des étudiants pour être sélectionné, alors qu'on va envoyer des gens pour la bourse d'excellence ou d'émergence pour le Congo dans les domaines techniques, tel que lui-même l'a dit, alors moi je me pose une question. Est-ce que dans les choix de l'étudiant qui aurait distingué, que ce soit une, deux ou trois fois, il ne faut pas voir les cours de spécialité pour lesquels l'étudiant doit aller approfondir ses connaissances? Ça, c'est ma première question. Puisque là, à attendre l'invité, en fait, quelqu'un peut avoir distingué deux, trois, quatre fois, mais que les domaines dans lesquels il veut être professionnalisé, il a été extrêmement faible. Alors, je me pose la question, si le critère doit être globalisant, avec tout simplement la distinction comme point de chute, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'objectif que nous recherchons. Deuxième chose, je me pose aussi la question sur les critères mis en place pour que ce projet-là représente les problèmes de la nation congolaise. Je vais dire ceci, et vous allez m'excuser, depuis 2006 jusqu'à ce jour, à ma connaissance, toutes les bourses que la RDC a données, je n'ai jamais vu le nom d'un Ituérien. Je parle comme Ituérien. Et les auditeurs ont commencé à avancer cette inquiétude depuis le début de l'émission. Pourquoi? Puisque tout simplement, comme le ministre l'a dit, et nous avons comme l'impression que ça sera le cas, ce sont les affaires des ministres.
Est-ce que c'est pas moi, la géostratégie ou la géopolitique, peut-elle jouer dans la sélection des candidats, ou bien nous devons nous placer dans la logique de la méritocratie? C'est-à-dire, il y a des critères globalisants, comme on l'a dit, mais pas les régionalismes ou encore tribalisme. C'est aléatoire.
Vous savez, je suis très content de cette question. Vous savez ce que le ministre venait de dire, et je l'ai correctement suivi. Il dit Kinshasa, ensuite Lubumbashi et partout ailleurs. Moi, je dis non. Ça a été un discours que nous avons attendu pendant longtemps. Et si je pose la question au ministre, qu'il me garantisse quels sont les mécanismes essentiels et existentiels qui pourront permettre à ce que ce projet soit d'ordre national, je parie que la réponse qui va me réserver, c'est que nous avons des universités sur l'Assemblée de la République. Mais par contre, il va aussi me dire que le plus souvent, le ministre qui est censé être national ne s'occupe que dans la plupart des cas de sa province. C'est la réalité du Congo. Et c'est là où nous disons, au moment où je vous appelle, nous sommes en débat avec les amis et nous savons, peut-être le ministre fera l'exception, c'est qu'après ce projet, on risque de se retrouver avec les villes clés de la République. Et le Congo profond, puisque nous parlons de l'émergence de la RDC, on ne parle pas de l'émergence de Kinshasa ou de Lubumbashi qui l'a cité là. La RDC est composée de 26 provinces.
Bon voilà, donc si je comprends bien Sylvain, votre intervention, vous demandez qu'il n'y ait pas de clientélisme, mais qu'on respecte des critères vraiment objectifs pour arriver. Vous craignez, il y a d'ailleurs un auditeur qui nous a écrit avant cette émission en évoquant quelques cas du passé vers les années 60 et 70, voire même, non, début 70, où un ministre de l'enseignement qui était du Kasaï, qui envoyait les batetés, en tout cas de l'ensemble, à l'étranger pour aller étudier, ce qui fait que vers les années 80...
Je peux dire une petite chose, monsieur le juge.
Voilà. Donc,
monsieur le juge.
Oui, rapidement, Sylvain.
Je voudrais dire au ministre ceci. S'il veut réellement que le Congo parte vers l'émergence avec ce projet-là, il faut que nous soyons garantis qu'il a déjà répertorié toutes les grandes universités, il a les cahiers des images de ces universités, et que, par ricochet, nous avons déjà un cahier de tous ces cadres universitaires à travers le pays.
Merci et beaucoup, Sylvain. Alors, le temps, comme c'est une préoccupation, préoccupation directe, on laisse quand même le temps au ministre de réagir. Monsieur le ministre.
Je vais d'abord réagir par rapport à la première préoccupation concernant la distinction spécialité. Je crois que quand on reçoit les dossiers, comme c'est une sélection, exemple, quand nous avons 100 bourses pour l'université de Durban, par exemple, Eh bien, on va voir, vous avez distingué, mais on va voir, je parlais des cours tout à l'heure. C'est pourquoi je prends plus distinction de première, deuxième, graduat,
donc en cas de qualité, il y a d'autres critères.
Il y a d'autres critères supplémentaires qu'on va utiliser pour te partager. Et tout Congolais aura le droit de vérifier s'il y a clientélisme. On peut déjà vérifier avec la bourse d'excellence. Il n'y a eu aucune plainte dans ce sens. Et tous les enfants qui ont fait leur test avaient le droit même de vérifier leur copie pour voir comment ça a été corrigé. Il a dit que les bourses qu'on a données depuis 2006 à ce jour par le gouvernement, il n'y a aucune tout rien. Je sais que depuis 2006, le gouvernement congolais n'a pas donné de bourses. Mais il y a par contre les bourses que l'on donne par certains pays, n'est-ce pas, qui ont leurs critères et leurs conditions. Je ne sais pas aussi s'il y a eu clientélisme, je ne sais pas. Mais depuis que je suis là, en tout cas, ben, à moins qu'on le fasse à mon insu, on prend les gens même qu'on ne connaît pas. On tient compte que leur dossier est ici, comme c'est l'argent de l'État qui va être payé, on a intérêt à envoyer les meilleurs. Cette affaire de dire enfant de ministre, enfant de tel, ça c'est pas comme ça. Parce que on peut envoyer un enfant de ministre s'il n'a pas de compétences, de capacités, eh ben
il va arrêter rien.
Or nous nous avons besoin d'avoir les gens bien formés qui vont revenir. Vous savez, le Japon, la Chine, la Corée du Sud sont développés à cause de cette politique.
Et pourquoi vous avez choisi l'Afrique du Sud, la Corée et du Sud et les Canada?
Voilà. Donc c'est pas seulement ça, mais je commence à parler pourquoi. Vous savez, après notre action d'indépendance, notre pays avait le même niveau avec la Corée du Sud, avec le Canada. L'Afrique du Sud était même derrière la RDC. Mais ces pays aujourd'hui sont trop avancés. Je devais aller voir pourquoi ces pays sont avancés. Et quand j'ai causé, j'étais dans des réunions à Séoul avec les Coréens, ils m'ont dit, c'est à cause de l'éducation. Ils avaient envoyé des centaines de milliers de Coréens en Allemagne, en France, aux États-Unis, partout. Et ce sont ces Coréens qui sont rentrés développer le pays. Et ces pays-là, cher ami, est très développé. Plus que même c'est un pays européen. Aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai préféré aller voir ces pays-là, mais on va continuer, c'est-à-dire
de partager l'expérience de ces...
Nous devons envoyer dans plusieurs pays, mais aussi pour éviter qu'il y ait la fuite des cerveaux. Comme je dis, il faut que nous mettions en place une politique de la promotion et de création des PME, c'est-à-dire, putain, moi, les entreprises, quand ils reviennent, qu'ils puissent trouver des structures d'accueil pour travailler.
Ce qu'on reproche au ministère, c'est de laisser certaines ambassades, qui, disons, certains secteurs de coopération, de l'éducation, dans certaines ambassades, organiser des bourses comme ça, de manière indépendante, sans consulter le gouvernement congolais. Nous pouvons citer quelques cas, par exemple, la bourse qui est accordée aux étudiants congolais pour aller étudier au Brésil. Est-ce que vous avez un œil là-bas? Est-ce que vous êtes regardé?
Non,
chaque année.
Non. Vous savez que moi, je suis très contre la dépendance. Et si j'ai initié le projet de cette bourse d'émergence, c'est pour ne pas dépendre des pays étrangers.
Pour contourner cette.
Quand un pays, c'est la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus, c'est la main qui dirige,
qui contrôle.
Oui, parce que si quand un pays donne ses bourses dans ces conditions, ben moi, je n'ai pas à m'interférer dans ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas ça. Moi, c'est les bourses qui seront financées par les Congolais qui m'intéressent. Et puis, notre ami a dit, est-ce que le ministre a répété les universités et tout ça? Non, ici, ce sont les candidats eux-mêmes qui vont déposer leur dossier. Bien sûr.
Mais ceux qui sont éloignés des grandes villes, ça ne sera pas...
On va...
Il y a une adresse e-mail et concours peut-être pour qu'ils envoient leur dossier.
On va aussi privilégier... les corps scientifiques, c'est-à-dire ceux qui sont déjà chefs de travaux, assistants, ils ont la priorité. Surtout que j'ai négocié au niveau de l'école polytechnique de Montréal que ceux qui ont les meilleurs dossiers passent directement au doctorat sans passer par la maîtrise. Donc, et ceux-là, ceux qui ont déjà publié, qui font des recherches, ceux-là, on va envoyer le dossier avant pour qu'ils soient étudiés et qu'on voit la possibilité qu'ils commencent directement avec le doctorat. Et à l'université d'Urban, j'ai négocié certains pourront suivre des cours intenses pour que dans 3 ans, qu'ils soient à mesure de faire et la maîtrise et le doctorat. Les autres feront 5 ans, mais ceux qui seront à mesure de pouvoir suivre le rythme qu'on va leur imposer,
ils feront 3 ans,
pourront le faire dans 3 ans.
Voilà. Alors Stéphane nous a rejoint. Stéphane, vous êtes à Idiofa. On va revenir à vous, monsieur le ministre, pour que vous continuez. Stéphane, vous êtes à Idiofa?
Oui, vous m'écoutez. Merci beaucoup.
Quelle est votre contribution, Stéphane?
Voilà, merci beaucoup. Je commence par vous saluer, monsieur le ministre, ainsi que les députés pour cette décision.
Voilà, on a des petits soucis, Stéphane. Stéphane, avec vous, on a des petits soucis. Et si peut-être vous pouvez vous éloigner de là où vous êtes.
Je vous écoute. Ok, je vous écoute. Vous m'écoutez?
Bon, relativement bien, mais de toute façon, vous pouvez vous déposer un peu, vous déplacer.
Ok. J'ai dit ceci, vous me suivez. Hein.
Allez-y.
Je présente mes félicitations au ministre, car cette décision va pouvoir éviter au monde scientifique, en particulier aux universités congolaises, la consanguinité scientifique. Mais toutefois, j'ai quelques questions et préoccupations à pouvoir poser au ministre. Donc, la première question est celle-ci. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité à cette bourse?
Oui, mais Stéphane, le ministre a déjà parlé des conditions. Moi, je pensais que vous allez commenter sur ces conditions qu'il a données.
Ok. Alors, je vais vous dire ceci, que la plupart des professeurs aujourd'hui, comme moi, donc, vous savez qu'ils sont concentrés à Kinshasa, une toute équipée, à Lubumbashi, pendant qu'à l'intérieur du pays, les universités naissent comme des palmiers. Alors, quelle chance le ministère accorde-t-il aux potentiels candidats professeurs qui sont
dans des provinces?
Alors, si on doit aussi accorder cette chance aux potentiels candidats, comme je l'ai dit, c'est pour éviter l'exode scientifique à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons même des professeurs qui sont à pied à Kinshasa par souci de pouvoir facilement attraper les universités auxquelles ils peuvent donner cours. Alors, et aussi, donc, en rapport avec les critères qu'a dit tout à l'heure le ministre, je veux aussi poser cette question. Hein, le ministre, comme moi, dans nos conditions, moi, les réalité sociopolitique actuelle du pays. Est-ce que le ministre ne craint-il pas qu'aujourd'hui la politique puisse vraiment, hein, ou donc la coloration ou
politique, la
configuration politique puisse influencer la sélection des candidats?
Merci beaucoup, Stéphane. Alors on va accorder la parole à Trésor qui est un Bujimaï. Trésor, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution, Trésor? Est-ce que vous pensez que sous 5 ans, on va résoudre cette carence, cette problématique de carence des professeurs? Comme l'a dit notre invité, chaque année, 500 étudiants vont devoir poursuivre les études à l'étranger.
De ma part, je salue l'initiative prise par le gouvernement pour valoriser le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, mais il faut malheureusement le constat amer, parce que plusieurs initiatives qui ont été prises dans ce sens sont aujourd'hui lettres mortes. Et moi, je pense que le gouvernement devrait commencer par reconnaître les titres académiques contenus dans les universités étrangères à certains de nos compatriotes qui, malgré leur expertise, ne sont jamais reconnus au pays. Et ici, en Bujimaï, nous avons un professeur qui, au Japon, est reconnu professeur, mais ici, en Bujimaï et au Congo en général, il n'est pas reconnu. Vous voyez déjà ce que ça pose comme problème. Alors, ma préoccupation serait de voir le gouvernement reconnaître d'abord des titres académiques qui ont été obtenus par nos compatriotes dans les universités étrangères avant que nous puissions déjà nous
envoyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Trésor. D'une part, vous encouragez la démarche du gouvernement, mais vous insistez, vous plaidez pour certains compatriotes qui ont fait des études à l'étranger. Jusqu'alors, leurs titres n'ont jamais été homologués ici dans notre pays. Merci beaucoup, Trésor. Olivier de Maragui, vous avez la parole. Quel est votre commentaire?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Alexandre. De la part d'Olivier, je suis en ligne à partir de Maragui.
Oui, quelle est votre contribution?
À mon âme d'avis, monsieur le journaliste, je tire sur ce sujet du jour, justement, des analyses. La première, c'est justement sur l'aspect forme de cette initiative gouvernementale et ensuite l'aspect fond de cette initiative. Et du point de vue forme de cette initiative gouvernementale, nous pensons que cette initiative est à saluer. Mais si nous entrons au fond de cette initiative gouvernementale, monsieur le journaliste, je pense que cette initiative paraît pour moi d'un paradoxe, dans la mesure où il y a plusieurs dossiers des aspirants professeurs du secteur public de l'enseignement universitaire à travers toute la République. Et moi, j'aurais souhaité à ce que le gouvernement commence par néanmoins répondre au dossier des aspirants candidats au secteur à l'enseignement
supérieur. Oui, comme l'a dit Olivier oui, tout à l'heure, comme l'a dit votre prédécesseur tout à l'heure, qui plaidait pour ces personnes-là. Merci beaucoup. Alors, CEPAS, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, CEPAS.
Bonjour, J.R.
Quel est votre avis?
Merci, J.R. C'est d'abord, je salue le ministre en passant. C'est d'abord une nouvelle très, très réjouissante pour moi, parce que, étant étudiant, je suis ravi par cette démarche qui est entrepris par le ministère. Mais je voulais dire au ministre, directement m'adresser à lui, que cette fois-ci, le gouvernement s'investisse à fond pour la concrétisation de cette histoire. Vous savez, nous sommes les étudiants et nous étions ici au Congo, nous sommes victimes de plusieurs histoires que nous n'allons pas cacher l'encre ici. Mais je m'adresse au ministre. Je voulais informer au ministre que je venais d'effectuer une recherche très simple sur les universités ici en Afrique, sur les 200 meilleures universités 2018. Mais aucune université du pays s'y retrouve. Alors, je propose au ministre d'assainir le secteur de l'enseignement supérieur. Ouais, parce que quand au professeur, ceux qui étudient à l'étranger, de venir ici pour enseigner, je pense que le ministère de l'enseignement supérieur doit avoir une vision très profonde par rapport à l'enseignement, parce qu'il s'agit de la vie de ces pays dans les 30 ans, dans les 20 ans. Alors, je d'une manière très particulière, je dirais au ministre que je ne sais pas si dans son plan, dans son budget, avec le bon vouloir qu'il aura, au prochain gouvernement, que le gouvernement débloque ne fût-ce que 50% du budget du pays pour aller dans le secteur de l'éducation. Parce que on se demandait, bon, nous décidions comment est-ce que dans à peu près 10 ans, 5 ans, il n'y a pas
voilà. Je crois que vous soulevez là un problème important, c'est la part allouée au budget, parce que au regard de ces projets et la part allouée au budget, pardon, à l'éducation, qui est du reste avec un taux de moins de 10%, alors ça risque réellement d'avoir un problème, ça risque d'être vraiment un réel problème. Merci beaucoup. Oui, allez-y rapidement.
Plus rapidement. Je voulais demander au ministre, parce que je viens de lui entendre dire que il y a déjà 33 000 étudiants déjà qui sont souscrits pour un concours quelconque. Moi, je voulais...
Ça, c'est le concours d'excellence.
Oui, donc le concours d'excellence. Quels ont été les mécanismes mis en place pour que les étudiants, au fond de Kinshasa, profond, soient au courant de ces concours?
Pour la manifestation de leur candidature. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, CEPAS. Alors, c'est une préoccupation ici, directe. Réaction, directement, monsieur le ministre.
Oui, je pense que c'est dépassé dans les médias. On avait lancé un communiqué dans les médias pour que les gens aillent s'inscrire, et puis ça s'est fait à l'ISP Gombe. Il y a même des retardataires que j'ai accepté qu'ils puissent aussi donner leur dossier, parce qu'on a besoin des meilleurs. Il faut qu'il y ait beaucoup de candidats pour contrer les meilleurs. Mais je vais répondre un peu à certaines questions qu'on a posées par les amis. Il y a Stéphane, par exemple, qui a parlé de ceux qui sont en province. Donc, ceux qui sont intéressés par les filières concernées, mais qui sont en province, doivent déposer leur dossier auprès des conférences de cet établissement. Dans chaque province, il y a quelqu'un qui est président de la conférence de cet établissement. C'est à ce niveau-là qu'on va déposer les dossiers. Je répète qu'il n'y aura pas d'influence politique. Je ne prendrai pas, en tout cas, un candidat recommandé qui ne répond pas aux critères. Évidemment, on peut recommander quelqu'un, mais si il répond aux critères, on peut le prendre. Ça, c'est ma parole d'honneur que je donne à tout le monde. Trésor a parlé de gens qui ont des titres obtenus à l'étranger, sont pas reconnus. Mais il y a une procédure. Et quand vous amenez un diplôme de l'étranger, vous devez écrire à la commission d'équivalence de mon ministère qui va traiter la question, qui va envoyer un message à l'université où vous avez étudié pour vérifier. Et si c'est authentique, eh ben, il me propose un arrêté d'équivalence. Et souvent, je signe ça régulièrement, ça traîne pas. Et celui qui a parlé de paradoxe, faut d'abord plusieurs dossiers, répondre aux dossiers de candidats. Mais pour devenir professeur, il y a une procédure. Enfin, si vous achevez des travaux et que vous avez publié des articles, ben, votre dossier est passé par les conseils d'institut et le conseil d'administration, ça m'arrive, je vous nomme. Il y a un qui a dit que chez nous, il y a des complications pour être professeur. Moi, j'ai dit que on doit renforcer les critères. Pas chez nous, il suffit de défendre sa thèse, on est docteur, on devient professeur. Mais c'est pas comme ça. Ailleurs, malgré la thèse qui est défendue, il faut publier au moins 2 articles dans une revue internationale qui s'assoit côté avant que vous deveniez professeur. Par contre, chez nous, il suffit qu'on défende sa thèse. Et vous savez, parfois, il faut le dire, il y a des thèses qui sont défendues, mais qui sont, par moment, travaillées par d'autres personnes. Ça, on peut pas le nier. Ah, moi, je pense que les conditions pourront être renforcées plus tard. Vous défendez votre thèse, vous êtes docteur.
C'est ce que nous avons remarqué ces derniers temps. Il y a un engouement même des hommes politiques qui cherchent à avoir ces diplômes de docteur pour être appelé professeur.
Non, dans le projet que j'ai à la tête de ces ministères, on doit tout dépolitiser. Et d'ailleurs, à mon sens, il faudra faire le choix. Soit on est politicien, soit on est professeur. Ou quand on est professeur, on a des fonctions politiques. On peut aller en détachement. Comment voulez-vous qu'on ait des professeurs qui connaissent même pas où est leur faculté? Mais on est professeur. Mais si vous êtes ministre, d'état des cabinets des ministres, quand est-ce que vous irez enseigner? C'est pas normal. Vous laissez le cours aux assistants, aux des travaux. Non, nous devons aimer notre pays et arrêter avec certaines pratiques. On ne doit pas tout politiser. Soit on est politicien, soit on est professeur. Ou si on est les deux, il faut réellement aller enseigner. La plupart introduisent le cours et viennent conclure. Mais c'est aussi ça, ça contribue à la baisse du niveau de...
Est-ce que vous pensez que vous arriverez réellement au résultat avec un maigre budget, la part qui est allouée à l'éducation? Parce qu'on n'a même pas encore atteint les besoins, disons, la volonté des participants, disons, aux assises des Maputo, qui voulaient que l'éducation puisse avoir vraiment une part importante.
Non, je pense qu'il faut quand même reconnaître les efforts qui sont faits. Dans ces pays, l'éducation générale avait 1 à 2% du budget national. Avec le seul d'état actuel, avec notre gouvernement, on est passé à 16%. Même si l'enseignement supérieur universitaire n'a que 2% à peu près.
Parce que l'enseignement primaire et secondaire prend quand même une bonne partie.
Donc nous devons réellement faire un effort. Parce qu'au lieu de financer beaucoup de choses qui ne rapporte pas grand chose pour notre développement, il faut réellement financer l'éducation, parce que la Corée du Sud, c'est le pays qui a le plus grand budget de l'éducation, mais allez voir comment ce pays-là progresse. Et ils m'ont dit et répété que c'est grâce à l'éducation que leur pays se développe.
J'espère. Donc, si je comprends bien, le choix de ces universités, vous avez tenu compte de derniers rapports qui parlaient de 200 meilleures universités en Afrique.
Non, ben moi je parle pas d'université africaine.
Parce que quand vous prenez l'Afrique du Sud.
Non, parce que l'Afrique du Sud a certaines universités qui sont classées au niveau international. Les 200 dont on parle sont les 200 universités africaines. Et la plupart ne sont pas classées sur le plan international. Et par contre, l'université nationale de Séoul que j'ai choisie, c'est parce que au plan international, il est environ 30e ou il devait être un 10e, mais comme c'est pas un pays anglophone, elle est 30e. Donc j'ai vu l'université d'Ottawa, la Polytechnique de Montréal, ce sont des très très bonnes universités que nous avons choisies. Il y a l'autre qui a parlé du fait que nos universités ne sont pas classées parmi les 200 meilleures d'Afrique. Ce que nous faisons sont les efforts pour arriver à cela. On a déploré aussi la prolifération des universités. En principe, dans mon plan d'action à ces ministères, donc si par exemple je pouvais avoir le temps de mettre en application ces plans d'action au ministère, il faudrait arriver à supprimer beaucoup d'universités ou alors à les mettre ensemble, à les fusionner. On peut demander dans chaque province, toutes les universités, de se mettre ensemble, créer une très grande
université. Vous ne craignez pas que ce soit intérêt glissant, parce que vraiment la politique s'y mêle aussi.
Oui,
c'est pourquoi j'ai parlé. Les détenteurs de ces universités, la plupart, ce sont des cadres de certains partis politiques.
C'est pourquoi je parle du patriotisme. Aujourd'hui, les universités sont devenues des propagandes politiques pour les élections. C'est pas normal. Chaque député, chaque ministre, chaque politicien veut avoir son université dans son village. Et dans tous les pays du monde, l'université c'est un fait de ville. Curieusement, au Congo, on veut avoir une université dans chaque localité.
Même là où les besoins ne se font pas
sentir. Dans chaque territoire. Ça, c'est très grave. Nous devons arriver à les fusionner. Alors, qu'ils soient des actionnaires dans une très grande université. À mon sens, on peut avoir une université ou deux ou trois publiques dans une province. Université technologique, université générale. Mais il peut avoir une ou deux universités privées. Mais cette prolifération fait que nos diplômes n'auront pas de valeur. Nous avons environ 3 000 professeurs aujourd'hui pour environ 500 000 étudiants avec presque 800 établissements. Mais c'est trop. Nous devons arriver à assainir les secteurs.
La loi cadre de l'enseignement souffre quand même d'application, on dirait.
Non, mais je pense qu'elle a été mal interprétée.
On a vu
mal
des professeurs aller révisiter cette loi à Zongo en 2011-2012, si ma mémoire est très bonne. Mais bon, les résultats est loin vraiment
non,
d'être...
Non, la loi n'a pas de problème, c'est la façon de l'appliquer.
On devait déjà appliquer le MLD.
Oui, non, le LMD est en cours, parce qu'on ne doit pas brusquer les choses. Nous avons déjà quelques départements, quelques facultés, quelques établissements, qui sont censés d'ailleurs commencer le LMD l'année prochaine. Je vais évaluer si réellement on est au point pour commencer, sinon on va retarder. Vous voyez, nous sommes en programme avec la Banque mondiale pour qui nous soutient par rapport à ça, parce qu'on doit revoir les curricula, ainsi de suite. Donc c'est en cours pour permettre à ce que nos diplômes soient aussi appréciés, aussi avoir l'équivalence facilement avec les diplômes d'ailleurs. Ça c'est en cours. Donc je crois que j'ai répondu aux différentes questions qui ont été posées par nos auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Voilà. Alors donc le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant les 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi et merci à vous qui accordez l'intérêt à cet échange citoyen avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous êtes plus nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Merci. Alors nous poursuivons ces débats. Le temps nous fait défaut. On va conclure rapidement avec notre invité. Vous avez parlé de la bourse d'excellence et la bourse d'émergence. On sait que la bourse d'excellence concerne les finalistes de l'examen d'État pour accéder aux études universitaires. Mais tandis que la bourse que le gouvernement vient de proposer actuellement, appelée la bourse d'émergence, ne concerne que les universitaires pour pallier à la carence des professeurs. Alors, donc,
la bourse pour les masters du Congo, c'est plus pour les candidats à la maîtrise au doctorat, mais les meilleurs candidats de diplôme d'État, si on trouve quelqu'un qui distingue et qui a des capacités, on peut aussi, de façon exceptionnelle, l'envoyer à l'étranger.
À l'étranger. Donc 500 pour la bourse d'émergence, 500 candidats chaque année sur 5 ans.
Oui, sur 5 ans. Après, on va évaluer pour voir si on peut maintenant avoir l'autonomie dès que nous aurons assez de professeurs et nous aurons de troisième cycle dans ces filières, eh ben nous allons commencer à former nos docteurs sur place. Mais dans les secteurs où aujourd'hui on a cette carence des professeurs, on ne sait pas avoir le troisième cycle. Donc il faut recourir à nos universités. Quelqu'un a dit que non, pourquoi aller ailleurs? Il faut d'abord commencer par améliorer ici. Même les États-Unis envoient leurs étudiants à l'extérieur. J'ai trouvé à Séoul les Japonais. Or, le Japon est développé. Le Canada aussi envoie ses ailleurs. Donc, la science, elle est mondiale. Mm-hmm. On a besoin d'apprendre ce qu'on fait chez l'autre.
Elle est évolutive, il faut partager
donc,
l'expérience.
Nous ne pouvons pas rester, nous, à marge de cette politique qui consiste à pouvoir, au lieu d'importer les aiguilles, importer les lames de rasoir. Mais il faut importer le savoir-faire pour le fabriquer.
Alors, monsieur le ministre, juste une question de curiosité avant de terminer cette émission. J'aimerais bien quand même avoir votre point de vue, en tout cas personnel, sur la qualité de l'enseignement universitaire aujourd'hui. C'est vrai, on a évoqué les problèmes de carence des professeurs, mais les enseignements, les contenus.
Non, pas seulement l'enseignement supérieur.
En une phrase.
Vous savez qu'il y a quelques temps, j'avais demandé qu'on puisse revoir le système de l'examen d'État. Parce que tel que c'est fait, ça ne permet pas d'envoyer des bons candidats à l'université. Donc, il faut repenser le système de fond en comble à partir de l'école primaire et secondaire. Vous savez, notre système de l'examen d'État, il est très bien conçu. Mais la fraude annule tout. La plupart d'enfants, des enfants qui ont ces diplômes ne le méritent pas. Alors, quand ces produits arrivent à l'université, si par exemple, tu sais pas parler français, tu sais pas écrire, tu sais pas l'apprendre à l'université, donc nous devons travailler. Et d'ailleurs, moi, j'avais proposé, dans le prochain gouvernement, à mon sens, il faut qu'il y ait un ministère de l'éducation pour mettre en place un plan partant de la maternelle, primaire, jusqu'à l'université. J'avoue que le niveau est quand même très bas et que nous devons faire des efforts comme nous le faisons.
On doit tous mettre la main à la pâte, travailler.
Nous devons le reconnaître, on ne doit pas cacher, nous devons le dire pour corriger. Parce qu'on va terminer, je répète, que les candidats qui sont fait inscrire pour la bourse d'excellence et puis le
test national,
le concours va avoir lieu ce samedi à l'ISP Gombe. Et pour ceux qui sont intéressés par la bourse pour l'Université du Congo dans les domaines technologiques des sciences et innovation, eh ben un bureau à qui sera ouvert à l'ISTA Kinshasa pour recevoir des dossiers, et en province on peut déposer auprès des conférences
des
de cet établissement.
Steve Mikaï, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de manière très très citoyenne d'échanger avec les uns et les autres.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous rappelons que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. William Lungamba, Piro Elameji et Martin Sebujangwe. Ces programmes vous a été coordonnés et présentés par J.R. Lungembo Lwabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.